pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si les pieds disaient, puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, n'en fera-t-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire, puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, et comment ce corps attendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité comme il a trouvé bon. Car s'il n'y avait à tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je ne peux très bien me passer de vous. » Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers. Dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ, et chacun de vous en particulier en est un membre. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, particulièrement les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Troisièmement, des enseignants. Puis viennent le don suivant qu'il a fait à l'Église, les miracles, la guérison des malades, l'aide, la direction de l'Église, le parler dans des langues inconnues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils faire des miracles? Est-il donné à tous de guérir les malades? Tous parlent-ils dans des langues inconnues ou tous les interprètent-ils? Évidemment non. Aspirez aux dons les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. Parole du Seigneur. Amen. Bienvenue les messagers du jour et l'ancien Noka va pouvoir prier pour les messages.
Merci Dieu, notre Père, pour ce moment précieux que tu nous donnes. Nous voulons écouter ta parole. Utilise l'instrument que tu as disposé afin qu'il puisse nous parler de ta part. Prédispose le cœur de chacun, afin que chacun obtienne la part qui lui convient. Nous avons besoin de toi. Parle-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Que la grâce nous soit donnée abondamment. Amen. Nous venons de faire la lecture de ce texte qui constitue l'ossature de notre méditation de ce matin. C'est 1 Corinthiens, chapitre, quel chapitre? Chapitre 12, à partir du 12e verset. Et le thème que je voudrais partager avec vous ce matin s'intitule « Cultivons notre communion fraternelle de la manière dont fonctionne le corps humain. » Cultivons notre communion fraternelle de la manière dont fonctionne le corps humain. Je suis appelé, vous êtes appelé, à cultiver la communion fraternelle de la manière dont fonctionne le corps humain. C'est une responsabilité qui nous incombe à chacun et à nous tous, que de cultiver la communion fraternelle. Il vous souviendra que depuis un certain temps, nous sommes en train de parler de la communion fraternelle. Qu'est-ce que la communion fraternelle? Il s'agit de la deuxième persévérance que nous trouvons dans le fascicule de discipola. Et alors, par rapport au texte que nous venons de lire, si vous commencez la lecture à partir du premier verset, vous allez comprendre une chose. C'est que l'église de Corinthe était devant un défi. Et quel était ce défi-là? C'est que les Corinthiens, une fois venus au Seigneur, étaient fascinés par les dons de l'Esprit, qui sont aussi les dons de la grâce, nous dira Paul. Et parmi tous les dons, il y avait quelques-uns qui semblaient être des dons tout à fait particuliers. Et l'un de ces dons-là, c'était quoi? Le parler, les dons de parler en langue. Et je dois vous rappeler qu'il s'agit d'un don qui était admiré par les Corinthiens. Et à la fois, c'était un don qui était là juste pour tester le niveau de spiritualité des Corinthiens. C'est que si vous parlez en langue dans l'église de Corinthe à l'époque, vous étiez considéré comme un chrétien de premier rang. Et si vous ne parlez pas en langue, vous étiez considéré comme un chrétien de seconde zone. Ce que vous n'aviez pas encore atteint, un certain niveau de spiritualité selon les Corinthiens. Et si vous ne parliez pas en langue, vous pouvez douter même de votre vie spirituelle, de votre communion avec le Seigneur et de votre vie d'intimité avec le Seigneur. Et c'est là maintenant à que Paul va réagir contre cette manière de voir les choses en montrant aux Corinthiens que les dons de l'Esprit sont donnés par la grâce de Dieu. Et c'est pour cela qu'il les appelle les dons de la grâce. C'est Dieu qui choisit dans sa souveraineté celui à qui il va donner ses dons. Où il va donner un don ou plusieurs dons, même à ceux qui ne les méritent pas, parce qu'il s'agit des dons de la grâce. Et donc ici, personne ne pouvait se vanter du fait que son don est le meilleur par rapport aux dons des autres, et personne ne pouvait se considérer comme étant le meilleur ou bien plus grand que les autres, parce qu'il avait un don qui soit supérieur par rapport à d'autres dons. Il y a plus, les dons sont pour l'édification de l'Église, voulait rajouter Paul, et il voulait à ce que les Corinthiens comprennent que c'est d'abord cela, que les dons sont les dons de la grâce, c'est qu'on ne mérite pas, parce que la grâce, elle est toujours imméritée, et que chaque don, et que tu aies deux ou trois ou plus, tous ces dons-là, c'est pour l'édification du corps du Christ, de l'Église tout entière, et non simplement pour l'édification de celui ou de celle qui les a reçus. Et alors, mes bien-aimés, dans le passage que nous avons lu, Paul va parler de l'attitude qu'il faut avoir par rapport aux dons de l'Esprit. Et c'est là maintenant qu'il va utiliser le corps. Il va utiliser la symbolique du corps humain, quelque chose auquel nous sommes très très familiers, parce que chacun d'entre nous a un corps. Et le corps, c'est cette carcasse qui permet à ce que je puisse reconnaître que tel c'est tel, et que tel autre c'est tel. C'est grâce à ce corps que je peux me présenter aussi devant vous. Et là vous direz que lui c'est Pasteur Kamabou. Et donc, nous sommes familiers à ces concepts. Et c'est ça ce qu'il va utiliser comme métaphore pour parler des dons et les dons qui nous sont donnés par la grâce. Et comme Paul veut nous parler de l'attitude qu'il faut avoir par rapport aux dons de l'Esprit, et Paul, je l'ai dit, il va utiliser la métaphore du corps qui est le corps du Christ. Et qu'est-ce que ce corps du Christ? Parce que je venais de lui dire que le corps, c'est l'élément, c'est la réalité par laquelle je me présente, ou bien chacun se présente devant les autres. Et c'est la réalité par laquelle on peut reconnaître qu'il s'agit de Pierre, qu'il s'agit de Jean, qu'il s'agit de Steve et qu'il s'agit de Kamabou. Alors, le corps du Christ, c'est la manifestation visible de Jésus-Christ ici sur la terre. Et l'église locale est un exemple de cette manifestation visible. Et nous sommes à Goma Ouest, le corps du Christ. Le corps du Christ ou l'église sont, dans ce cas d'espèce, interchangeables. Et donc, à lieu, place du corps du Christ, on peut utiliser le mot église du Christ. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous savons bien, et c'est ça ce que nous confessons, que nous devenons disciples de Jésus-Christ, nous devenons une partie du corps de Christ, et nous devons apprendre à vivre comme partie du corps, comme partie du corps de Christ. Nous devons apprendre à prendre notre responsabilité et à vivre comme faisant partie du corps. Même si ce corps a plusieurs membres, mais nous devons vivre comme étant une partie intégrée à l'ensemble qui est le corps. Un jour, j'étais avec la chorale, avec le pasteur Vincent, avec la chorale Éclat d'Adoration, et nous parlions des dons. Et j'ai posé la question à la chorale. À supposer que vous trouviez une jambe en train de marcher seule, sans être attachée au corps, vous allez faire quoi? Quelle sera votre réaction? Comment vous allez réagir par rapport à ça? Vous trouvez une bouche en train de se balader seule, sans faire partie du corps. Mais vous allez être stupéfait, vous allez prendre les rages pour dire que non, j'ai rencontré quoi? Ouais, un fantôme. Un fantôme. Ce que nous devons faire attention par rapport à notre manière de vivre comme disciples. Nous devons apprendre à vivre comme disciples. C'est qu'à vivre comme une partie du corps attachée au corps. Faire partie de ce corps n'est pas une option, mes bien-aimés. C'est que quand tu as fait l'expérience de la rencontre personnelle avec Jésus, là, absolument, tu dois faire partie de l'ensemble du corps. Et faire partie du corps, je venais de le dire, ce n'est pas une option où tu vas choisir ou ne pas choisir. Pas du tout. Mais il s'agit d'une exigence, d'une obligation à partir du moment où tu confesses Christ comme étant le Seigneur de ta vie. Et cela se produit à partir du moment où tu les confesses comme étant le Seigneur de ta vie. Quand Christ est confessé dans la vie de quelqu'un, c'est que réellement cette personne-là devient disciple de Jésus-Christ parce qu'il est habité par le Saint-Esprit à partir du moment où il fait l'expérience de la repentance, de revenir auprès de notre Seigneur. Et c'est ce que l'apôtre veut souligner au verset 13 quand il parle du baptême dans l'Esprit. Et ce baptême dans l'Esprit, ce n'est pas le baptême d'eau, mais c'est un baptême qui est spirituel. Et donc à partir que nous, par lequel nous passons, à partir du moment où nous faisons l'expérience de la repentance, et le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est que là, nous sommes inondés par la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est par ce baptême que nous faisons partie du corps de Christ. C'est par ce baptême où le Christ habite en nous que nous faisons partie de ce corps, quel que soit le statut que je peux avoir. Quelle que soit la tribu à laquelle tu appartiens. Et Paul serait en train de dire que une fois baptisé, que tu sois grec ou juif, ou juif ou grec, libre ou esclave, mais à partir du fait que tu fais cette expérience-là, tu fais partie du corps de Christ. Et dans ce passage, Paul s'adresse à deux catégories de personnes. Premièrement, à celles qui croient qu'elles n'ont pas beaucoup d'importance dans l'Église, parce que en lui ou en elle, il ou elle n'a pas constaté un quelconque don. Et il s'adresse aussi, deuxièmement, à celles qui ont trop d'estime ou trop d'opinion par rapport à ce qu'ils sont à Jésus-Christ et par rapport aux dons qu'ils ont reçus gratuitement de la part de notre Dieu. Et ces deux questions méritent d'être examinées. Comment est-ce que je me vois par rapport aux autres? Comment est-ce que je me vois? Comment est-ce que tu te vois par rapport aux autres? Est-ce que tu es là juste pour dire, ouais, au moins balé, balché à pita, bobo qu'on a mazawadi, yé misina. Peut-être qu'ils sont supérieurs par rapport à moi. Comment est-ce que je vois les autres par rapport à moi? Je dis la première question, comment est-ce que je me vois par rapport aux autres? Et comment est-ce que je vois les autres par rapport à moi? Alors, moi par rapport aux autres. Une chose est vraie, mes bien-aimés, nous sommes tous différents. Si vous vous regardez, vous allez constater qu'il y a des différences. Et ce qui est bien, c'est que même chez les jumeaux qui sont univitellins, il y a toujours des différences. C'est que Dieu ne nous a pas créés identiques, l'un identique à l'autre, mais il nous a créés différemment pour que nous puissions jouir et son Église puisse jouir de la diversité. De la diversité que Dieu donne comme grâce à son Église. Et donc, comme il s'agit de la diversité, mais l'Église, ce qui fait l'unité de cette Église-là, c'est bien sûr le contraire. Ce qui fait l'unité de l'Église, c'est qu'il y a diversité dans cette Église. Alors, comme il y a diversité dans l'Église, c'est que chacun doit trouver sa place dans l'Église. Et comment maintenant chacun doit retrouver sa place dans l'Église? C'est à se rendre disponible par rapport au Seigneur. C'est qu'il n'est pas question ici de se considérer comme petit. Et là, tu es dans l'Église comme si tu étais comme une poule mouillée. Que ce sont les autres qui sont plus importants que toi. Non, il s'agit de trouver ta place dans l'Église de Jésus-Christ. Et alors, quand tu te retires de cette diversité-là, tu ne construis plus l'unité du corps. Parce que sur le corps, il n'y a pas les mêmes membres. Même s'il y en a les membres qui sont des doublons, mais il y a d'autres qui sont un et unique dans son genre. Dieu a mis chacun et chacune dans sa propre position dans le corps qui est l'Église. Il l'a fait pour que l'Église fonctionne de la manière dont lui-même l'attend. Si donc nous sommes différents les uns des autres, c'est de cette manière-là que l'Église doit fonctionner. Et très souvent nous vivons avec l'impression comme si nous sommes une parenthèse inutile dans l'Église. Et tu seras en présence de beaucoup de personnes qui se disent, bon, ça, je ne saurais pas faire. Et d'autres vont même plus loin en disant, ah, je ne connais même pas ce que je peux faire dans l'Église. Je dois le répéter. Une fois tu as fait l'expérience de la repentance et que tu as été abreuvé aux sources du Saint-Esprit, aujourd'hui tu n'as plus le droit de te dire que tu n'as pas ta place dans le corps qui est l'Église de Jésus-Christ. Vous êtes où Dieu vous veut que vous soyez dans l'Église. Vous avez votre place. Et ce sont les cris que je lance à chacun d'entre nous. Que vous soyez maman, que vous soyez jeune fille, que vous soyez enfant à l'école du dimanche, vous avez votre place. Que vous soyez papa, que vous soyez jeune gens et jeune garçon, ou jeune homme, à l'école du dimanche, vous avez votre place. Et quand vous ne trouvez pas votre place, et c'est là que vous amputez le corps d'un membre très important. Je dis, il n'est pas question ici de se dire que ce sont les autres qui ont la place, les révérends qui sont là, les anciens qui sont là, les diacres qui sont là, parce qu'ils sont peut-être beaucoup plus sollicités. Mais je dois vous dire que sur le corps, chaque partie a sa place. Vous appartenez, mes bien-aimés, vous appartenez à cette église Sepsaya Goma West. Et pendant que vous êtes là, l'église a besoin de vous pour qu'elle soit capable de remplir sa mission. C'est que quand vous vous retirez, ne vous considérant pas comme une partie du corps, et je l'ai dit, c'est que vous amputez le corps d'un membre très important pour que l'église arrive à remplir sa mission. Et c'est fort de cela. Et fort de cela, nous avons besoin de demander à Dieu, non pas que je ne connais pas mon don, mais de demander à Dieu, comment veux-tu m'utiliser à la place où je suis maintenant, dans l'Église? Comment veux-tu m'utiliser? Il n'est pas question ici de retourner en arrière pour commencer à savoir, maintenant le don, mon don c'est lequel? Mais ce n'est pas pour rien, je dis bien, que l'Église vous a placé, que Jésus-Christ vous a placé dans l'Église. C'est pour que vous deveniez une partie du corps. Et on doit être fier de ça. Et la question, comment veux-tu, ô Seigneur, toi qui m'as sauvé, m'utiliser à la place où je suis maintenant? Comment est-ce que je peux être la meilleure partie possible du corps du Christ aujourd'hui? Il y a plusieurs membres dans le corps, mais un seul corps. Et c'est Dieu qui arrange les membres pour que tous les membres du corps soient interdépendants. C'est lui qui a arrangé ça de cette manière. Il a placé les bras à une position donnée et les pieds à une position donnée pour que quand on avance, il y a la fois que je puisse faire basculer mes bras pour que les choses avancent de cette manière-là. Il a placé, parce que vous savez bien que Dieu, c'est un architecte hors pair, il sait là où il place les choses pour que le corps soit agréable à avoir et que le corps puisse assumer sa fonction. Et si le corps n'était qu'un seul membre, c'est que dans les cas d'espèce, il n'y aurait pas d'église. Et alors, les autres, comment je les considère par rapport à moi? Et Paul continue en disant, l'œil ne peut dire à la main, je ne besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, parce que c'est moi qui porte tout, je n'ai besoin de vous. Ça serait purement un orgueil. Et l'orgueil qui ne dit pas son nom. Et ça serait, comme je l'ai dit, l'orgueil qui hante l'Église, qui menace à l'Église. Et Paul nous dit que nous devrions avoir plus de considération sur les membres du corps qui paraissent comme trop bas. Les membres du corps qui paraissent trop bas. Pour la plupart, ce sont les membres qui n'avaient pas de prestige social. Ce sont les membres qui n'avaient pas de pouvoir à l'époque de Paul. Ce sont les membres qui n'avaient pas des dons spectaculaires comme le don de parler en langue. Ce sont les membres qui exerçaient leurs dons Plutôt dans les coulisses, ils n'étaient pas du tout visibles. C'était des personnes qui exercent leur don dans le visible. Et ces gens sont plus importants, nous dira Paul, que ceux qui sont vus par tout le monde. Et les membres du corps qui paraissent être très faibles sont nécessaires. Et ce que nous estimons être indécent, même quand il faut parler. Et l'apôtre Paul de nous dire que ce sont les membres pour lesquels nous entourons beaucoup, beaucoup de soins. Ce que nous devons honorer dans l'Église, des fois ça passe comme si ça n'existait pas. Et ce que nous devons honorer dans l'Église, ils sont peu remarqués, mais ils font un travail remarquable. Il faut un ministère incroyable dans l'Église. Je ne sais pas s'il s'agit de vous poser la question à Goma Ouest, quel serait ce ministère à qui semble passer inaperçu et qu'on constate seulement. Ça serait quoi? Je vais vous aider à y répondre. Les amis de la propriété. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous pensez qu'il constitue un maillon très important au sein de l'Église? Mais nous constatons, quand nous allons dans les petits coins, oh, qu'est-ce que c'est beau! Et ça devient un lieu d'aisance, et vous pouvez passer tout le temps parce que c'est là que vous vous sentez à l'aise. Mais c'est parce que ce travail-là, ce ministère est porté par des gens qui sont invisibles. Que vous avez déjà constaté qu'il y a des gens qui ne prennent ce tuyau qui est là pour imbiber l'intérieur du temple pour qu'il y ait moins de poussière. Est-ce qu'on s'aperçoit d'ailleurs? Mais l'apôtre Paul nous dit que ce sont des gens qui méritent beaucoup plus d'honneur parce qu'ils passent inaperçus. Mais pour la plupart des cas, nous voulons juste jeter notre regard sur les gens qui sont très visible et peut-être qui nous font du bien. Mais nous devons savoir, même les plus petits nous font aussi du bien. Alors, pour nous tous, Paul nous explique la nature de soins que nous devons avoir les uns des autres. Et Paul nous dit que si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, Paul dira, tous les membres se réjouissent avec lui. Et donc il y a deux réalités, combattre avec les autres, se réjouir avec ceux qui sont honorés, voilà deux réalités présentes dans la vie de l'Église. Et si nous tous, en tant que partie du corps, nous arrivons à vivre cette expérience de combattre, donc de souffrir avec celui qui souffre et de se réjouir quand il y a un membre qui soit honoré, là, nous sommes en train de dépasser beaucoup de choses à qui peuvent nous attirer comme des pesanteurs vers le bas. C'est de cette façon que nous montrons les uns aux autres que nous nous soucions d'eux. Il est question de voir comment nous combattissons avec les autres membres du corps. Parce que Paul dit, quand un membre souffre, et vous allez constater que c'est l'ensemble qui souffre. Quand tu as des céphalées, c'est tout le corps qui devient faible. Quand tu as de maux d'estomac, c'est tout le corps qui devient faible. Enfin, mes bien-aimés dans le Seigneur, retenons que par nos dons, nous servons le corps du Christ. Et Jésus a dit qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir. Servir les autres ne laisse pas beaucoup de place à l'égoïsme. Ça permet à ceux qu'on sort de son égoïsme. Et voilà, mes bien-aimés, le défi nous est lancé. Le défi qui nous est lancé, c'est de reconnaître que c'est Dieu qui nous a mis à notre place dans l'église Goma Ouest, pour ceux qui sont de Goma Ouest, et pour ceux qui sont d'ailleurs, c'est Dieu qui vous a placé dans l'église dans laquelle tu partages la foi, l'expérience de la foi avec les autres membres. Il ne faut pas que j'aie de moi-même une haute opinion et qui va m'amener à mépriser même les autres pour dire non, ce sont des petits, ils ne peuvent rien apporter. Il ne faut pas non plus que je me rejette comme sans importance par rapport aux autres pour avoir une maigre estime de moi-même. Non, mes bien-aimés. L'Église a besoin de chacun. Parce que ce que Dieu a placé à toi, il veut à ce que ça soit au bénéfice de l'édification de l'Église. Et ce que nous devons demander à Dieu, c'est quoi? Comment pourrais-je être la meilleure partie du corps? Que je puisse être pour servir l'Église, le corps du Christ, pour la gloire du Christ. C'est ça la question que nous devons nous poser. Et demandons à Dieu comment je peux être la meilleure partie du corps. Je dis bien la meilleure partie du corps, pas pour se considérer comme étant supérieur par rapport à l'ensemble. Mais c'est juste meilleur parce que je veux aussi donner quelque chose pour que le corps du Christ soit édifié. Pour que l'Église, corps du Christ, continue à être édifiée. Nous sommes appelés, mes bien-aimés, à cultiver chacun et chacune pour sa part la communion fraternelle pour que l'Église continue à être édifiée. Et cela pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, le Maître de l'Église. Amen. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Seigneur. C'est parce que c'est toi le Seigneur de l'Église. Et tu savais déjà depuis, et avant que l'Église ne naisse, et c'était dans ton cœur, pour appeler hors du monde les personnes qui doivent vivre une communion fraternelle et une communion fraternelle pour que le corps soit édifié. Seigneur, merci pour cette parole de vie que tu viens de nous communiquer, à qui nous place devant un défi. Et tu demandes à chacun, à chacune, de se considérer comme une partie du corps. Et que nous n'avons pas aussi à faire des distinctions entre les différentes parties du corps pour considérer telle ou telle autre partie comme étant d'un grand rang et d'autres comme étant de seconde zone. Merci Seigneur parce que tu veux à ce que nous puissions vivre cette réalité-là et nous te demandons à ce que tu places en chacun et à chacune d'entre nous le fait de se considérer comme partie intégrante du corps du Christ. Et c'est cette joie à qui va pousser chacun et chacune de te servir, de servir ton Église et cela pour la gloire de ton nom. Merci de nous faire prendre conscience de notre responsabilité. Et merci de nous faire prendre conscience de ce que nous avons comme place dans le corps qui est ton Église. Te bénissons Seigneur parce que tu vas nous booster encore une fois quand nous nous reconnaissons t'appartenir, quand nous nous reconnaissons être partie intégrante de ton corps. Et c'est là Seigneur que tu nous veux pour que nous soyons capables de revenir à nous-mêmes et de nous placer là où tu nous as placés et de te demander que veux-tu que je fasse là où tu m'as placé. Que cela, Seigneur, soit une question adressée à chacun et que demain ou après-demain, nous puissions voir que chacun se considérera comme partie intégrante du corps et qui se donne à ce corps et âme pour l'édification de l'ensemble. Nous te les prions dans les noms précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.